Alors bonsoir, petit troupeau. Merci pour les cantiques. Alors ce soir, on va regarder l'église de Pergame. Apocalypse 2, 12, 17. Alors ça, c'est une image de la ville de Pergame, en Asie, hein? Au nord de la mer Égée, là, dans les fameux voyages de l'apôtre Paul. Alors, j'ai pensé pas de mettre quelques images pour nous mettre un peu dans cet endroit. Pergame, en passant, c'était une ville de l'extravagance sous tous les sens. À Pergame, c'est là où est-ce que tu avais toujours, il me semble que c'est fort, non? C'est beau, le son, oui. C'est là où est-ce que tu avais toujours le plus gros. Ou si ça ne pouvait pas être plus gros, ça va être plus de quelque chose. Et ici, alors, je vous ai amené un théâtre. Regardez, là, dans les premiers rangs, là, jusqu'au 50e, peut-être, là. Jusqu'ici, là. Alors, je ne sais pas ceux qui étaient assis ici, là. Ça, c'est une face de singe. Alors, c'est écrit dans l'histoire que ceux qui étaient assis là, il y avait le vertige quand ils allaient. Quand ils allaient au théâtre pour écouter l'orateur qui était en bas, là, hein, c'était comme un théâtre, vous le voyez, là. Alors, ceux qui venaient ici là, pour parler, là. Alors, ceux qui étaient ici, là, il y avait le vertige, tellement que c'est... Alors, étant donné qu'on ne pouvait pas faire un plus grand théâtre qu'à Éphèse, à Pergame, parce que le territoire physique ne le permettait pas, alors on a dit, on va en faire un qui va donner le vertige, parce qu'à Pergame, il faut que ce soit plus. Alors, c'était une façon, à Pergame, d'être plus. Alors, mais ce n'est pas pour rien que je vous amène à tout de suite dans ce plus. Il faut que ce soit plus grand, il faut que ce soit plus. À Pergame aussi, ils étaient très fiers de leur université. À l'époque, imaginez, là. Ça, c'est l'université, c'est la bibliothèque de l'université. Il y avait là, dans la bibliothèque, 200 000 livres, des livres, toutes faites en parchemin. Alors, ils étaient reconnus pour faire un fameux parchemin qui durait, qui était bon. Pergamena, c'était le nom de ce parchemin. Alors, ils étaient fiers, les citoyens de Pergame, d'avoir une pareille université, une pareille bibliothèque, c'était vraiment plus grand, excellent, etc. Hein? Alors, Pergame, c'était une ville reconnue pour ses grandeurs. Et aussi, c'était l'église, malheureusement, c'est l'église du mélange. Et je vous ai mis cette image parce que ça, c'est Zeus. C'est le roi Zeus. On adorait Zeus. Les Grecs, vous connaissez, vous savez bien. Hein? Et puis, voyez-vous ici sa jambe? Et comme un serpent ici, on voit ici un peu des écailles, c'est différent, peut-être comme un poisson. Alors, c'est Zeus qui représente un humain très fort, mais aussi mélangé avec on voit ça souvent. Alors, j'ai mis l'image pour qu'elle nous saisisse. Alors, c'est le mélange. Hein? Pergame, c'est l'église. Du mélange. Et vous savez, lorsque le Seigneur adresse aux sept églises, c'est parce qu'il veut parler à nous autres. Hein? On l'a dit dans l'introduction, le Seigneur a mis ses messages aux sept églises pour nous parler aussi. Là. Il n'a pas juste parlé à l'église de Pergame il y a 2000 ans, Éphèse, et etc. Oui, il leur a parlé à cette époque-là, mais on s'entend pour dire que les messages qui sont là sont pour nous. Alors, il y a un ensemble de messages qui est dans les églises et qui s'adresse à nous. Alors, on avait, dans Éphèse, on avait, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Éphèse? Il nous dit qu'on a oublié notre premier amour. Alors, le Seigneur, il nous reproche cet état d'âme, cet état d'esprit, et il espérait qu'on revienne à notre premier amour et qu'on se rappelle d'où on est venu, comment on était sorti de tout ça et comment est-ce qu'on l'aimait, comment est-ce qu'on était fervent, comment on était zélé, etc. Et puis après ça, on a vu dans l'église de Smyrne, la dernière fois, l'église de Smyrne, elle n'a pas de reproche. Mais l'église de Smyrne, elle a vécu des choses, hein, c'était l'église des catacombes. Hein, et vous rappelez, là, les premiers chrétiens qui se faisaient dévorer par les bêtes féroces dans le cirque de Rome, c'était un divertissement pour les Romains à l'époque de voir des chrétiens se faire briser de la sorte. Et Smyrne, le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur des souffrances et de la mort. Hein. Alors le Seigneur, il l'encourage d'être un bon chrétien, puis n'aie pas peur. Et on pourrait penser à Jean-Baptiste quand on pense à l'église de Smyrne. Vous savez, quand Jean-Baptiste a paru, il a été le précurseur du Christ, il a dit à ses disciples, il a parlé du Christ, hein? Il a parlé du prophète Isaïe, il a rappelé les paroles du prophète qui allait annoncer le Messie, etc. Et à un moment donné, Jean le Baptiste a rencontré le Messie, hein? Il l'a reconnu. Et il a parlé avec lui, et on voit dans Jean, l'évangile de Jean, dans les évangiles, on voit comment est-ce que le Seigneur a été baptisé par Jean, et on voit la relation qu'ils ont eue tous les deux, et on voit les belles paroles qui sont là. Et Jean s'est fait arrêter, il était mis en prison, et puis il était en attente. En attente de quoi? Peut-être qu'il savait que son temps était fini. Et Jean était consterné. Et comment ça? Il a envoyé ses disciples pour aller voir le Messie, puis avec des questions. Tu sais. Es-tu vraiment celui qui devait venir? Parce que Jean, quand il était dans son ministère, dans le désert, puis il était saisi par le Saint-Esprit, puis qu'il parlait, il était puissant. Là. L'Esprit était là, c'est vrai, il était puissant. Là. C'est incroyable. L'Esprit était avec lui, puis il prêchait aux foules, puis il a eu de la repentance. C'est incroyable ce qui s'est passé à cette époque-là. Et soudainement, il se fait arrêter, mis en prison, en attente de se faire couper la tête comme un simple poulet. Et il a envoyé ses disciples, « Es-tu vraiment celui qui doit venir? Comment ça que, si tu es vraiment le Christ, celui qu'on attend, que les prophètes ont parlé, comment ça que je suis en train de pourrir en prison, je suis maltraité? Qu'est-ce qui se passe? » Alors, ça, c'est l'Église de Smyrne qui souffre et que le Seigneur répond, « Je suis en contrôle. Je suis en contrôle de tout. N'aie pas peur de la mort et des souffrances. » Et on arrive à Pergame, et là, c'est le mélange. Alors, l'Église, on peut, si on regarde historiquement, on peut penser que plusieurs en ont eu marre, hein, des sacrifices, de la souffrance qu'ils enduraient, et ils avaient peur. Et on va voir du mélange dans l'Église. On va lire le texte. C'est un peu petit, hein? Oui, hein? Bon, je m'excuse. Bon, je pensais que ça allait être... Mais c'est un peu petit. Alors, on va lire le texte. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Alors, le Seigneur parle ici, il écrit... « Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qu'il reçoit. Seigneur, encore une fois, on est reconnaissant pour ta présence avec nous. Et on est reconnaissant aussi du fait que par l'Esprit, Seigneur, dans chacun d'entre nous, tu parles à nos cœurs et à nos consciences. Seigneur, tu nous parles à tous. Et Seigneur, on a souvent entendu dire que la prédication, le message qui est dans les Écritures est toujours plus grand que tes serviteurs, quels qu'ils soient, ceux qui viennent apporter ta parole. Seigneur, le message nous concerne tout aussi bien. Et Seigneur, tu parles à tes enfants, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et tu vas là dans ce lieu secret pour nous parler, pour mettre de la lumière sur certaines choses, nous rappeler à l'ordre. Et Seigneur, on se présente devant toi avec ce message, où est-ce qu'on parle de mélange. Et Seigneur, certainement, tu as des choses à dire à chacun d'entre nous. Seigneur, dans ta grâce et ta miséricorde, tu le fais avec douceur, avec compassion. Et tu es un Dieu miséricordieux, comme on a vu ce matin, Seigneur, c'est là les attributs de ton nom. Tu es un Dieu riche en compassion, en miséricorde, plein de bonté. Seigneur, merci de ce que tu es un vrai berger qui prend soin de chacune de ses brebis tendrement pour lui faire du bien et la nourrir proprement. Seigneur, merci. C'est en ton nom qu'on se présente devant toi et qu'on partage ces quelques paroles. Amen. Alors, il dit d'écrire à l'ange de Pergame. J'ai mis de la couleur. Alors, vous voyez, le jaune qui est comme ça, l'église de Pergame, on la revoit là où tous ces mots-là qui sont en jaune, que j'ai mis en jaune, c'est l'église de Pergame. C'est les personnes. Le bleu que j'ai mis, les mots que j'ai mis en bleu, c'est le Seigneur Jésus, hein? C'est lui-même. C'est ce qu'il concerne. Le trône de Satan, là où à Satan sa demeure, hein, c'est l'Église même de Pergame. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est le Seigneur Jésus. C'est les Écritures. On va aller voir ça. L'épée aiguë à deux tranchants. Alors, dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux, on va le voir rapidement, l'Épître aux Hébreux, hein, un texte qu'on connaît bien. Hébreux 4, 12, un texte qu'on connaît bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors, on retrouve le même syntagme ici, l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, l'épée à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à pénétrer âme et esprit. Pour nous, on n'est pas capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est trop difficile. Hein? On n'y arrive pas dans notre compréhension. Là. Mais il veut montrer jusqu'à quel point la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle est puissante et comment est-ce qu'elle est juste pour aller à l'intérieur, dans nos cœurs, et pour nous montrer ces choses que le Seigneur veut nous montrer. Alors, cette épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, cette parole à Pergame, on a un problème de mélange. En raison... À cette époque, on nous dit que l'Église de Pergame, c'est l'époque du 4e siècle, où est-ce que Constantin, l'empereur Constantin, à l'époque vers 315, il a fait religion, État, le christianisme. Alors, au lieu de combattre les chrétiens, comme depuis 300 ans, si vous voulez, là, les chrétiens, hein, parce qu'ils ne voulaient pas adhérer au sacrifice de l'empereur, à adhérer à l'empereur. Alors, les chrétiens se sont fait martyriser là, dans toute la Rome, là, tout le royaume, la puissance de Rome, partout où ils étaient, on essayait de prendre les chrétiens. Hein. Vous connaissez un peu l'histoire de l'Église et on sait ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, sous l'égide de Constantin, pour des raisons politiques, parce que vous savez, les plus grands citoyens de l'époque de Rome étaient des chrétiens. Et c'est Pliny, un gouverneur, qui le dit dans ses lettres. Il demande, il réécrit à l'empereur pour lui dire à son supérieur, « Êtes-vous, je suis consterné. » Et il écrit, « On me demande d'anéantir les meilleurs citoyens. » Alors, chemin faisant, rendu vers 315, Constantin, lui, décide de prendre les chrétiens et d'en faire la religion de l'État. Alors, maintenant, tout le monde devait être chrétien. Et certainement, vous savez, il y a eu un mélange tout de suite avec tout ce qu'il y avait. Imaginez, là, tout l'Empire romain, c'était gigantesque. Là. Les royaumes et les nations et les peuples qui étaient tout au travers de ça. Il n'y avait pas juste des Italiens. Là. Vous savez, il y avait de toutes les races. Alors, il y avait de toutes les religions, si vous voulez. Il y avait de toutes les doctrines. Il y avait de tous les dieux. Il y avait de toutes les statues. Et beaucoup de... Juste pour reprendre, faire une image, dans la religion catholique dans laquelle on a été élevé pour la plupart, les plus vieux, il y a beaucoup de statues. Hein? Il y a beaucoup de statues et plusieurs de ces choses, de ces images, de ces icônes viennent de l'Antiquité, de cette Antiquité qui était païenne. Alors, on a fait une association, on a fait un mélange du christianisme avec toutes ces choses païennes qui existaient. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, presque 1800 ans, c'est pour ça qu'il y a eu une réforme hein, et qu'il y a eu un schisme ensuite à partir de l'Église. Il y a eu des séparations. Les réformateurs, l'Église, hein, quand elle s'est séparée, parce qu'elle est revenue à l'Écriture. Et cette parole qui est tranchante, hein, alors ils sont revenus. Et là, ils ont vu clair et ils se sont complètement séparés. Et c'est de là d'où on vient. Hein? Et il y a eu plein de divisions, de séparations par la suite, mais vous comprenez, là, en gros, qu'au départ, il y a eu un mélange. L'Église de Christ s'est mélangée politiquement là, en 315. Ça s'est fait. Alors, c'est devenu une religion d'État, mais beaucoup plus tard, par après, 1500 ans plus tard, cette Église qui était vraiment là, hein, étatique, alors elle s'est reséparée, si vous voulez, pensons à l'Église catholique. Et si on veut mettre ça dans notre contexte au Québec, vous savez que ça ne fait pas tellement longtemps que l'Église catholique est complètement séparée du gouvernement. Hein? Ça ne fait pas des siècles. Là. Ça a commencé dans les années 60, ici au Québec. Dans les années 50, l'Église catholique était très, très, très à l'intérieur du gouvernement. Et partout, l'Église catholique avait un droit de regard sur toute chose. Et même, on écoutait sur les stations radio tout ce qui se disait et à la télévision. Ils avaient un droit de veto sur tout ce que le peuple pouvait entendre et voir. Alors, à partir des années 60, ça a commencé à crier, à brosser fort pour que ça se sépare. Et aujourd'hui, en 2012, il ne reste que le crucifix là, à l'Assemblée nationale. C'est tout. Et pour la plupart, ce n'est qu'une relique d'une ancienne époque. Alors, pour vous montrer la séparation, de la religion et de l'État. Mais cette séparation qui nous concerne, elle est vraiment spirituelle et elle est réelle. Alors, je reviens à cette épée à deux tranchants qu'on vient de lire dans Hébreux. Alors, c'est cette parole qui a fait ça. Et c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple, pour son Église. C'est arrivé dans l'histoire, historiquement. L'Église, pour toutes sortes de raisons, à un moment donné, a accepté, hein, et elle s'est mélangée. Et c'est par la parole de Dieu qu'on revient, comme le Seigneur est en train de le faire présentement avec nous. On regarde les Écritures, et par le Saint-Esprit, il va dans chacun de nos cœurs. Et il va nous parler sur certaines choses. Nous aussi, on a du mélange. Il n'y a personne ici qui n'a pas de mélange. En 2012, on vit au Québec. Il n'y a pas un chrétien ici au Québec qui n'a pas un peu de mélange dans son cœur et dans son âme. Si vous pensiez que vous étiez parfait là, sur ça, là, je ne dis pas que vous n'avez pas la bonne doctrine et que vous prêchez la mauvaise doctrine. Non. Mais malheureusement, il y a un prédicateur, je ne me rappelle plus c'est qui a dit ça, là, mais il a dit, l'Église devait être dans le monde. L'Église est dans le monde, dans le sens que le Seigneur, il ne veut pas qu'on s'en aille se cloîtrer dans un monastère, comme les catholiques l'ont fait, là, se cacher, là, pour pas se, comme les scribes et pharisiens hypocrites, ils ne voulaient pas toucher au peuple, ils s'éloignaient, faut pas qu'on, c'est des impurs, faut pas les, ils s'éloignaient du peuple. Il empêchait le peuple de s'approcher d'eux, il ne voulait pas être impur. Et là, arrive le Seigneur Jésus qui se mélange aux impurs, à leurs yeux. Et puis, ce n'est pas le Messie, ça. Si c'était le Messie, il ne se mélangerait pas au peuple. Mais au contraire, il les purifiait, il guérissait les malades. C'est incroyable, le ministère du Seigneur Jésus. C'est lui qui s'approchait des lépreux et il les guérissait. Les femmes qui étaient impures pour des pertes de sang, il s'approchait, il la purifiait. Alors, les scribes et pharisiens hypocrites, eux, ben c'était comme les prêtres catholiques et monastères. Ils s'éloignaient du peuple. Ils s'éloignaient pour ne pas être corrompus, ne pas se faire distraire dans leur mission, qu'on disait. Mais le Seigneur, il veut que l'Église soit, comme il dit dans l'Évangile de Jean, il veut qu'on soit au travers du monde, mais n'étant pas du monde. Parce qu'il veut qu'on est une lumière, comme il nous l'explique. On est une lumière et on ne doit pas mettre la lumière en dessous de la table. On doit la mettre sur la terre pour éclairer. Alors, c'est ce qu'on est. Il veut qu'on soit au travers des gens du monde, dans le monde, mais il ne veut pas qu'on soit comme eux. Il ne veut pas qu'il y ait de mélange, mais évidemment. Il faut qu'on soit attaché à la parole. Il faut qu'on soit imbibé d'elle. Et c'est là le lien. Alors, l'Église doit être dans le monde, comme elle doit l'être, mais malheureusement, le monde est rentré dans l'Église. Et ça ne devait pas arriver. Mais malheureusement, ça s'est fait. Et la façon que ça se fait, c'est très, 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 très simple. Le monde n'est pas dehors, puis là, il décide de rentrer dans l'Église. C'est pas ça qu'il fait. C'est que la philosophie du monde, il va un par un. Elle nous séduit, chacun d'entre nous, moi-même, ici présent, par toutes sortes de choses qui sont dans le monde. Et tranquillement, pas vite, on ne s'en rend pas compte, on y adhère. L'apôtre Paul, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tranquillement, pas vite, parce qu'on est sous l'égide de la grâce, je pense qu'on abuse de la grâce, parfois, un peu. Malheureusement. Alors, ce mélange qui est commencé, parce qu'il dit, je sais où tu demeures, le Seigneur Jésus. Il sait où est-ce qu'on est. Et c'est très personnel quand toutes les tu, les toi, ton, il nous parle. Quand on lit le texte, là, c'est pas l'Église de Pergame que j'entends, moi. C'est Laval, Perron. Je vois un gros doigt là, qui sort de la Bible et qui me monte mon cœur. Au début, je lis là, comme vous, là, écrit à l'Église de Pergame. Mais après ça, là, je sais où tu demeures. Il y a un gros doigt qui me monte mon cœur. C'est ce que ça me fait. Tu, Laval, Perron. Je sais que là est le trône de Satan. Satan n'est pas dans mon cœur. J'appartiens au Seigneur Jésus. J'ai été scellé par le Saint-Esprit. Mais on est encore des pécheurs. Et parfois, cette nature pécheresse qui est là, la nature pécheresse, là, il faut la faire éteindre par l'Esprit, par la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, par la pratique des œuvres du Maître. Mais il arrive. On n'est pas capable de tout le temps être parfait. Hein? Et là, les tentations, l'apôtre Paul, il nous le dit, hein? Il l'explique bien. J'ai le désir de faire le bien, mais c'est le mal que je fais. L'esprit est bien disposé. Hein? C'est vrai, des fois, on a l'esprit bien disposé. Hein? On veut faire des belles choses. On veut bien se conduire. On veut bien penser. On a des belles idées dans le Seigneur. C'est beau, là. Puis ça foire. Ça fait patate. Parce que la chair est faite. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais... Et souvent, ça vient de ce mélange. De ce mélange. Parce qu'on vit dans un... On vit en 2012. Et on est bombardé, hein? On sait comment est-ce que c'est. Il suffit de sortir du Québec. Il suffit de sortir du Québec, là, puis de s'en aller à l'île du Prince-Édouard. Ou de s'en aller, je dirais, en Saskatchewan. Pour ceux qui l'ont fait, là, ou qui peuvent le faire, là. C'est complètement une autre planète. C'est vrai, là, ce que je vous dis, là. Quand tu vas dans d'autres places, là, les gens, la façon qu'ils vivent, qu'ils pensent, c'est complètement différent. En tout cas, moi, mon expérience, là, être un chrétien en Saskatchewan, là, puis à l'île du Prince-Édouard, là, pour moi, là, en tout cas, je trouve ça facile, relativement facile. Vivre une vie chrétienne au Québec, c'est très difficile à cause du mélange. Le mélange est tellement fort au Québec. C'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la partager, là, mais le mélange est fort au Québec. Et c'est difficile. Même quand on est allé aux États-Unis, à Denver, Colorado, Littleton, là-bas, le Babel Chapel, on vit dans une ville, une méga-ville chrétienne. Les gens, il y a des assemblées partout. Partout, partout. Ce ne sont pas toutes la même dénomination, mais la plupart, c'est tous des frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Ils sont tous sauvés par la grâce comme nous. Puis, mais tu vas là-bas, puis être chrétien puis vivre chrétiennement, c'est plus facile. Ici, c'est très difficile. Alors, par conséquent, ça fait un peu comme ça fait historiquement à l'époque de l'Église de Pergame. Le joug était tellement difficile, tellement ardu, que tranquillement, pas vite, le mélange s'est fait. Et le Seigneur, il veut qu'on revienne avec la parole pour faire le ménage. Ésaïe, un beau verset, rapidement, qui nous rassure. Ésaïe 55, un autre verset qu'on connaît bien. Ésaïe 55, verset 8. On est tellement différent de ce que Dieu... On pense qu'on n'a pas de mélange. Verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Dès le départ, on est... Regarde. On ne pense pas comme Dieu. « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et là, il parle, hein? Comme la pluie, la parole, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Hein? On comprend ça, ce phénomène-là. Là. La pluie arrose la terre et parce qu'elle arrose la terre produit en abondance de toute bénédiction qui vient de Dieu, le pain de Dieu. Hein? La terre est remplie de blé, de fruits, de légumes, d'eau. Hein? Toute nourriture nous vient de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est en la scrutant et c'est en la méditant quand on médite la parole de Dieu, vous le savez, là, mais je fais que le répéter, là. Le Seigneur, il fait comme allumer une lampe de poche dans notre cœur. Et il est habile, le maître. Il n'éclaire pas tout. Là. Il nous connaît. Fait qu'il va éclairer. Tantôt, avec la même parole, il va aller éclairer un coin, puis un autre parole, à un autre moment donné, l'année d'après, il va aller éclairer un autre coin. Tantôt, il va prendre une autre parole, puis il va juste l'éclairer encore la même partie, mais, tu sais, le Seigneur nous éclaire notre cœur, notre âme, nos pensées, notre intelligence par sa parole, différemment. Ce n'est pas toujours pareil, mais il nous parle, il nous montre. Garde le mélange qui est là. Garde. As-tu vu le mélange qui est là? Garde. Tu ne l'avais pas vu, hein? Ça fait 18 ans qu'il est là, ce mélange-là. Je vous dis ça de même. Là, mais il ne dit pas ça comme ça, mais vous comprenez très bien l'image. Il y a du mélange dans nos cœurs et dans nos pensées. Et le Seigneur, il veut qu'on l'enlève. Vous savez, notre cœur n'est pas le siège de Satan, parce qu'on appartient au Seigneur. Mais l'ennemi a été capable de rentrer dans l'Église, de toute façon. Comment est-ce qu'il fait ça? Bien, c'est qu'il travaille fort de l'extérieur, et de l'extérieur, ça nous influence, et on développe des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, des mauvaises réactions, des mauvaises pensées, et c'est comme ça que au lieu de semer comme on devrait semer les uns les autres, hein, on se médit les uns les autres. Vous savez qu'est-ce qu'on fait. Je n'ai pas besoin de vous le répéter. Là. On a du mélange à l'intérieur. On doit faire le ménage. Historiquement, à la fin du 1er siècle, une véritable principauté occulte régissait la cité de Pergame, devenue le trône de Satan. Réel, là. Une société se livrant délibérément et consciemment au culte des démons. C'est pas une blague, là. C'est pas moi qui dis ça. Là. C'est historique, là. C'est écrit dans des écrits. C'était réel à Pergame. Alors imaginez l'influence. Certainement, c'est sûr qu'il y avait de l'influence négative. Il n'y avait pas de la belle influence. Les chrétiens, c'était difficile pour eux. À l'époque, dans Apocalypse 2:20, on va voir ça plus tard, à un moment donné, là. Il parle de Jézabel. Apocalypse 2:20, juste un petit peu plus loin, il parle à l'église de Thyatire, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. » On verra ça plus tard, mais c'est un peu le même phénomène. C'est le mélange. C'est le mélange qu'il y avait dans les églises. Pour X raisons, parce qu'on avait peur de toutes sortes de choses. Et à Pergame, c'était présent. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il parle aux Thessaloniques, puis il leur dit, là, il parle de la sanctification, puis il faut qu'ils s'éloignent de la débauche, des cultes, on offrait des sacrifices à toutes sortes de dieux, et on y participait de peur de. Et il y a des chrétiens qui disaient, bon, écoute, on le fait juste de corps, on ne le fait pas d'esprit. On appartient à Dieu, puis c'est un péché parmi tant d'autres. La grâce de Dieu surabonde. Et puis, je le fais, que c'est plus facile, puis ça occasionne moins de troubles. Puis eux autres, ils sont contents. Fait que ça calme tout le monde, puis je ne perds pas ma joie, je ne perds pas mes affaires, ma famille n'est pas persécutée à outrance. C'est vrai qu'on a offert, on a participé à cette offrande-là, mais coudonc, vous le savez que je suis un chrétien pareil. Elle sait que ça n'existe pas, mais eux autres, ils pensent que ça existe, puis tout le monde fait ça, puis là, il n'y aura pas de guerre pour ça. Alors, j'ai fait comme tout le monde, j'ai participé, mais c'est juste physique, là. Vous savez bien que je suis un chrétien, puis j'adore. C'est ce qui se passait réellement, là. C'est ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation-là? J'ai quelque chose contre toi, c'est que là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak, et là, il prend un exemple de l'Ancien Testament, parce qu'à cette époque, ils avaient l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, tout le monde n'avait pas les Écritures comme nous on les a, bien que Le Nouveau Testament était près d'être accompli, mais alors il prend une image de le Seigneur, il prend une image de Balak et Balaam, hein, qu'on connaît bien nous autres aussi. Alors Balaam, il enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors c'est ce qu'il faisait. Alors on offre. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Balaam? Et le Seigneur, il dit, bon, de même, au verset 15, « Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Alors, il met une image de l'Ancien Testament, de ce qui s'est passé, et il dit que les Nicolaïtes, ça fait un peu, ça ressemble à ça. Il dit, de même, un peu cet exemple. Évidemment, ce n'était pas Balaam, ce n'était pas Balak non plus, mais les Nicolaïtes, ça ressemblait à ça. Et on a vu les Nicolaïtes dans l'Épître aux Éphésiens. Le Seigneur, c'est une louange qu'il fait à Éphèse. Il leur dit, vous haïssez les Nicolaïtes. Bravo, moi aussi. Parce que c'est le Seigneur qui dit ça à l'Église d'Éphèse. Mais ici, à Pergame, 2 siècles et demi, 3 siècles plus tard, là, oups, là, ils sont rendus avec vous autres, là, dans l'Église. Alors, la doctrine de Balaam, premièrement, on voit dans Nombre, quand on regarde le texte dans Nombre, on n'y ira pas parce qu'on n'a pas le temps, mais quand on regarde dans Nombre, là, avec Moïse, tout ça, on voit que Balaam est engagé par Balak pour aller maudire Israël parce qu'on en a peur. Et là, Balaam arrive. Alors, c'est la voix de Balaam. Alors, lui, il arrive, puis le Seigneur se manifeste à lui et pour l'empêcher d'y aller. Et regardez, dans le fond, la voix de Balaam, pour faire ça rapidement, la voix de Balaam, c'est on s'efforce d'obtenir un oui au lieu d'un non. Le Seigneur, il dit non. Mais nous autres, on argumente pour avoir un oui. Et on trouve une façon de faire passer la pilule, puis on y va, puis à un moment donné, on se rend compte que qui n'a pas vécu ça là, dans sa vie là? Ouais, je pense que le Seigneur avait dit non, dans le fond. En tout cas, moi, je peux le témoigner, là, si je suis le seul dans la salle, là, tant pis, là. Mais ça m'est arrivé. Le Seigneur avait dit non. Il ne l'a pas répété 3 fois. Il l'a dit une fois, il a dit non une fois. Puis, avec un raisonnement, une argumentation, tout m'est permis, tout m'est pas, tu sais, là. Fais passer du temps un peu, puis là, tu fais ce que tu pensais. Puis quand tout a foiré, puis que tu pleures, là, tu reviens en arrière avec le Seigneur, puis tu te rappelles du nom qu'il t'avait dit. Mais ça ne faisait pas ton affaire. Puis là, on lui demande de nous pardonner. Puis on lui demande si c'est possible d'effacer le dégât, parce que c'est pas beau. Puis de nous, hein, c'est ça, hein? Il n'y a pas rien que moi qui fait ça, d'abord. Vous me rassurez. C'est la voix de Balaam. On s'efforce d'obtenir un oui au lieu d'un non. Et après, Balaam est allé plus loin, là. L'égarement de Balaam. Et ça, on voit ça dans Jude. L'égarement de Balaam. Rapidement, Saül, vous vous rappelez, Saül? Ben, c'est, gars, on en appelle à une puissance autre que celle de Dieu. Je vais en surprendre plusieurs, peut-être. Mais on peut en appeler à la puissance de l'Auto-Québec pour nous sortir du pétrin. On peut en appeler à le travail au noir. Ça m'a passé par la tête. Excusez-moi, pardonne-moi, Seigneur. Mais je me mets sur l'autel devant vous autres. Là. Je suis un humain. Je suis un pécheur, moi aussi. Je m'efforce de ne pas pécher. Mais il y a des idées qui me viennent de même. Pourquoi qui me viennent de même dans la tête? Parce que je suis dans un monde comme ça. Ça vient de tout bord, tout côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire non. Il ne faut pas faire comme Balaam. Et c'est dur. C'est pour ça que je vous disais tantôt, quand tu vis là, à l'île du Prince-Édouard ou à Littleton Bible Chapel, Colorado, là, c'est plus facile d'être un chrétien. Parce que tu n'es environné que de chrétiens, d'enfants de Dieu. Puis c'est comme, tu sais, tu as des balises tout partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand tu vis au Québec, dans Sodome et Gomorre, c'est dur de ne pas faire comme l'autre des fois. Parce que ouvre une porte, ouvre une fenêtre, ouvre une corruption partout. C'est incroyable. C'est tout qu'un travail d'être un chrétien droit en 2012 au Québec. C'est difficile. Les garments de Balaam, on en appelle une puissance autre que celle de Dieu. Saül, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait aller à la bataille. Il était prêt à aller jusqu'où, Saül? Il est allé voir une sorcière qui faisait un pacte avec les démons, avec Satan lui-même, pour faire venir les morts. On le voit, le texte, là. C'est historique, ça. Il y en a qui ne croient pas aux démons. Ils sont dans le champ, peut-être. Parce que ça existe, les démons. Ça existe. Puis il y en a qui en appellent à ça. Alors, l'égarement de Balaam. Et troisièmement, la doctrine de Balaam qu'on voit ici, là, dans l'église de Pergame. Et là, la doctrine, c'est l'enseignement. Là. Ça veut dire que là, c'est rendu loin. Là. C'est rendu loin, là, la doctrine de Balaam. On accepte un mélange de l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Alors, les Nicolaïtes, je prends la peine d'y aller, là. On va y aller. Acte 6. Alors, c'est pas moi qui dis ça, là. C'est des commentateurs, là. Sous toute réserve, là. Mais regardez bien. Dans Acte 6, on voit un... Vous savez, quand on a instauré les diacres, le diaconat, alors les frères ont choisi des diacres, et dans Acte 6 et au verset 5, « Cette composition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Niacor, Timon, Parménas et Nicolas, qui lui était un prosélyte d'Antioche. » Alors Nicolas était un prosélyte, c'est-à-dire que c'était un païen qui s'est converti au judaïsme et qui, par la suite de converti au judaïsme, il est devenu un chrétien. Il a connu l'Évangile, comme nous qu'on a fait, là. À l'exception que nous, on n'est pas devenu juif avant. Hein, on n'a pas embrassé la doctrine juive. Et Nicolas, apparemment, Nicolas... C'est pas sûr à 100%, là, mais il y en a, plusieurs parlent de ça. Deux choses. Alors, Nicolas, à l'époque, il se serait, à un moment donné, il y a eu des personnes qui, dans le conseil des anciens, si vous voulez, il y a des personnes qui ressortaient un peu du troupeau, si vous voulez, qui s'élevaient, comprenez-vous? Il n'y avait pas de hiérarchie, là, dans le Seigneur a institué, hein, les anciens dans une assemblée avec les diacres pour prendre soin du peuple de Dieu. Mais il est arrivé que certaines personnes se sont élevées en importance, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il est devenu comme un évêque d'une église. Alors, il était au-dessus, si vous voulez, des anciens ou de plusieurs églises. Alors, ça a commencé comme ça. Et Nicolas, on pense qu'il était un de ces personnes, d'où la doctrine des Nicolaïtes. Et aussi, compromis avec l'État. Alors, il y avait, pour des raisons politiques, pour des raisons de toutes sortes, là, alors il y avait comme des compromis avec l'État ou certaines choses pour faciliter, si vous voulez, l'administration de l'Église. Alors, bon, il y a d'autres choses, mais entre autres, on penserait que parce qu'il n'y a rien de certain, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur, il haït la doctrine des Nicolaïtes parce que c'est vraiment pas, c'est pas ça l'Évangile. C'est pas comme ça que ça doit être une assemblée locale. Puis lui, les Nicolaïtes qui deviennent des Nicolas, bien, ils fonctionnaient de même. Puis le Seigneur, il n'en veut pas dans son Église, il ne veut pas ça. Alors, il veut que ça parte. Et ça va partir avec la parole de Dieu. Alors, le Seigneur, il nous dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » L'épée de ma bouche, qui est la parole de Dieu. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Une belle récompense que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors l'épée de ma bouche, hein, c'est la parole de Dieu par laquelle on va arriver. C'est par les Écritures qu'on devient convaincu et que la repentance se produit à l'intérieur. Hein, c'est vrai, hein? C'est par les Écritures. C'est par les Écritures que le Seigneur va nous convaincre. Hein? C'est ça qu'il dit dans l'Évangile de Jean. L'Esprit, le Consolateur, quand il sera venu, hein, il va nous convaincre de justice, de péché et de jugement. Ils ne sont peut-être pas dans l'ordre, là, mais quand on lit, mais si on ne lit pas, si on vient à l'Assemblée le dimanche une fois, puis on ne lit pas de la semaine, il faut lire pour qu'on puisse être capable de faire le ménage, pour qu'on puisse être capable de ne pas faire de mélange, pour qu'on puisse être capable de voir, de discerner le mélange qui est déjà là à l'intérieur et qui s'est fait au fil des années, petit peu par petit peu, sans, à notre insu. C'est comme ça qu'il fonctionne, l'ennemi. On ne s'en rend pas compte. Il y a des choses qu'on est capable de voir clairement, là, mais il y a plein de choses qui sont sournoises. C'est comme ça que le monde, l'ennemi a réussi à rentrer dans l'Église au travers de chacun des individus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Un nom nouveau, mon temps est passé. On voit dans Isaïe 56, Isaïe 56, le verset 5, il dit, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, ça ressemble à ce que Jean dit, hein, dans Jean, une mur, une place et un nom, préférable à des filles et à des fils. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. » Juste un petit peu plus loin, 62, 2 à 4. « Alors les nations verront ton salut et tous les rois de la terre et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Il parle d'Israël, bien évidemment, ici. On ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera la terre l'épouse. Au verset 12, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Hein? C'est le cadeau. C'est le cadeau qui nous attend. Alors, c'est le printemps. Il y a du ménage à faire. Je viens du Saguenay, moi et mon épouse. Et au Saguenay, ben, ici aussi, là, mais au Saguenay, là, le grand ménage, là, c'est au printemps et à l'automne. Deux fois par année. Alors, il y a du ménage à faire, frères et sœurs, parce qu'il y a du mélange. Il y a du mélange et il faut aller à l'intérieur, il faut, avec la parole de Dieu, laisser le Seigneur faire le travail et laisser nous éclairer où est-ce que j'aurais pu donner maintes et maintes exemples de toutes sortes de choses sur lesquelles on pourrait faire le ménage, mais gars, ce n'est pas à moi de faire ça. Le Saint-Esprit va le faire à chacun d'entre nous et il le fait bien. Il le fait avec bonté, avec miséricorde, avec compassion. Il le fait pour moi, il le fait pour vous aussi. Alors, en méditant les Écritures, le Seigneur va éclairer des choses dans nos cœurs. Et il y a du ménage à faire. Alors, il faut y aller. Frères et sœurs, faisons le ménage. Quand même, ça ne serait-ce qu'une seule chose. Mais l'ennemi est au travail. L'ennemi veut que l'Église périsse. Il veut que l'Église soit tellement mélangée, tellement mixée, là, qu'on ne puisse plus reconnaître. Le Seigneur, il disait ça, hein, on va vous reconnaître. Vous savez comment est-ce qu'ils vont savoir si vous êtes vraiment des chrétiens de Christ Jésus? Bien, vous allez faire les choses que Christ Jésus faisait sur la terre de son vivant. Parce qu'il y a juste le Saint-Esprit qui rend capable l'homme et la femme de faire ce que lui faisait. Alors, si on fait ça, Satan, c'est un imitateur. Il ne peut pas faire. Tu sais, là, un imposteur, là, ce ne sera pas long, il va être démasqué. Et ça ne t'offre pas longtemps. Mais un vrai chrétien, là, c'est reconnu parce qu'il fait, il imite son maître. Il fait les choses que le maître a faites, de toutes sortes de façons. Alors, il y a du ménage à faire, frères et sœurs. Il faut qu'on le fasse de l'intérieur. Seigneur, encore une fois, merci pour ces quelques minutes qu'on a pris pour partager dans l'Écriture. Et Seigneur, c'est notre prière que tu nous parles et que tu nous aides à cibler certaines choses et à faire le ménage qu'il y a à faire. Seigneur, on ne sera pas capable de tout faire ce qu'il y a à faire. On n'est pas capable, tout simplement. Ce serait trop difficile, ce serait trop drastique. Mais dans ta grâce et ta miséricorde, tu es plein de compassion. Et Seigneur, tu nous pardonnes et tu prends plaisir à tes enfants qui marchent par la foi avec toi, avec persévérance et avec dans cette espérance que nous avons. Un si grand salut qui tantôt va se déployer sous nos yeux. Seigneur, merci pour tes bénédictions et pour ta patience envers nous, tes serviteurs. Seigneur, bénis-nous avec ta bénédiction durant cette semaine. Amen.